One, two, sound check. It's okay. That's it, man.
Proboscopie, l'émission politique divergente de la bande FM Montpellier-Rennes, le loup vous salue. En compagnie aujourd'hui de celui qu'on nomme dans l'arrière-pays héroleté le Major. Allez, comme en bon vieux temps, salut Olivier Notal.
Bonjour Yves.
On se retrouve, une émission spéciale dédiée à celui qui, jusqu'à hier 18h45, était le boss. Georges Frêche. Revenant de cette Chine qu'il avait introduisée en politique dès 1964 sous le pseudonyme de Georges Lierre, monsieur le président est mort hier ce soir. Durant 90 minutes, nous allons commémorer, nous souvenir ensemble les grands moments que les uns et les autres avons pu vivre ensemble avec lui. Nous évoquerons, le Major et moi, ses rencontres impressionnistes avec celui qui avait fait des Montpelliérains de souche de véritables rats de cave. Avec celui qui a fait de cette bourgade endormie décrite par Léo Mallet, la surdouée. Avec celui qui, devenu président de la région septimanienne, a couronné son œuvre en l'étendant au Languedoc-Roussillon. Durant 90 minutes, nous accueillerons ceux que nous pensons qu'ils furent ses amis, au-delà des disputes politiques. Nous attendons aussi bien Philippe Sorel que Patrick Vignal ou Michael Delafosse, sans oublier Robert Navarro. Mais tant Jean-Claude Guesso que Béatrice Négrier viendront porter témoignage et commémorer avec nous l'homme qui fut leur compagnon de route et leur camarade de campagne. Enfin, Jean-Pierre Grand et Marc Dufour viendront saluer l'homme qui aura été et restera probablement le maire de Montpellier. Le tout entrecoupé de moments que nous avons passés avec lui dans nos studios et de morceaux de musique qu'il affectionnait particulièrement. Et maintenant, place à la mémoire, mais avant tout, son dernier morceau de musique, vous le reconnaîtrez, c'était son hymne de campagne.
Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge.
Mais qu'est-ce qu'il a, ce type, qui est toujours là, même quand personne le bipe.
Oh là là, oui, ses yeux de braise et sa petite fossette au menton. Je n'endors plus, j'en deviens niaise. Oui, je fonds en pamoison, je soupire son nom.
Et elle achète des tas de revues pour y découper ses photos. Sur tous nos murs, l'air détendu, on voit sourire le beau cabot.
Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge.
Encore c'était Clark Gable, autant n'emporterait le vent. Mais je dois me farcir sa belle gueule de donjon toute la journée sur mon écran.
C'est quand même mieux que ton football, occupe-toi lit ou bien picole.
Mais si je bois, je réponds plus de moi, je suis pas plus ménage à trois.
Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge.
L'autre soir en rentrant, je passe mes pantoufles, mais voilà qu'il réplique aussitôt ma graisse à me laisser sans souffle.
Est-ce que mon Georges se permettrait de se laisser aller comme tu le fais? Aïe, la raison, Aznavour, t'es beau à regarder, tu tues l'amour. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges,
à lui faire sortir le cœur par la gorge. Chaque fois que monsieur sort son chef-d'œuvre, faut que je la conduise au cinéma. Pendant qu'elle avale ses couleuvres, oh là là, moi je tourne en rond, je fais les 100 pas.
T'as qu'à m'attendre dans un bistrot.
Ah vraiment, elle me pousse au crime.
Je prendrai le dernier métro, puisque je te saoule avec mon film. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge.
Mais qu'est-ce qu'il a, ce type?
Eh bien, retour dans les studios de Divergence 93.9 pour un hommage, on peut le dire, au camarade qui a disparu. Salut l'artiste. Rassure-toi, tu ne nous auras pas embêtés durant ces 40 dernières années, comme tu l'avais promis à Michel Crespi, lors d'un dîner chez ses parents, alors que tu venais d'être nommé professeur d'histoire des idées économiques en 1970. Jeune trentenaire, tu débarques du pays de Marianne après avoir snobé l'ENA au sortir de HEC. Connu en Chine depuis 1964 sous le pseudo de Georges Lière, tu t'es même offert un stage à Moscou pour valider tes études commerciales. Depuis, tu as rejoint un parti socialiste mitterrandisé, ce qui chagrine le fils de gaulliste fondateur du MRP que tu, du RPF, pardon, que tu es. Après avoir ravi la députation en 73 au CRS UDR Couvain, tu entreprends de détrôner l'homme au CIM Camille de Montpellier, maître des masses. C'est chose faite lors de la vague rouge qui submerge la France en 1977. Depuis, tu règnes sur la bourgade endormie que tu réveilles en la déclarant surdouée. Député alternatif, car tu oublies souvent de siéger au Palais Bourbon. Tu t'empares du district et deviens, en compagnie de Raymond Dugrand, le bâtisseur que chacun salue aujourd'hui. Sans jamais abandonner tes étudiants de la faculté de droit auquel tu brossais à coups de bonbons des portraits au vitriol de tes contemporains, tu fais de la ville une capitale culturelle connue jusque dans les stations du métro parisien. En 1989, tu oses même l'achat d'une pleine page dans Libération pour souhaiter une bonne année aux Français. Mais entre-temps, Mitterrand t'aura snobé. Jamais tu ne seras ministre, pas même secrétaire d'État. Il t'en veut depuis le congrès de Metz en 1977. Et puisque tu n'auras pas de destin national, tu t'inventes une destinée municipale avant qu'elle ne devienne régionale. Le nouveau férou languedocien, c'est toi. Républicain, plus que démocrate, épris d'intelligence, gouailleur et un brin anarchiste faute d'être resté maoïste, tu épuises tes collaborateurs, les étouffes de ta verve et de ton dynamisme. Depuis 1998, alors que tu achèves la mutation de la ville avec le tram et la mise en œuvre de l'agglo, tu veux conquérir la région quitte à la rendre septimanienne. Coup de génie incompris. Tu y parviens en 2004, puis très récemment en mars dernier. Pourtant, hier soir, il te restait encore tant de choses à faire, à accomplir. Pour l'agglo, comme pour la région. Et t'inquiète, on sera là pour veiller au grain.
Je suis peiné de ce qui se passe au Parti Socialiste. Parce que, vous savez, on ne milite pas impunément 35 ans avec des gens sans les aimer. Alors moi, il y en a quelques-uns que je méprise profondément, mais la grande majorité, je les aime.
Des noms ?
Oh non, mais les militants, c'est les miens. Tous les militants ici. Moi, par exemple, quand je suis arrivé à Montpellier, le Parti Socialiste, il était là, dans la rue Colo, là, il y avait 30 personnes. Quand je suis parti, il y en avait 3500. Donc je les ai fait adhérer les uns après les autres, chacun. Et ce sont mes amis. Et ceux-là, je ne les lâcherai jamais.
Bon, ben voilà, c'était durant l'émission quelques extraits comme ça, des passages de Georges Frêche dans nos studios. Mais Jean-Pierre Grand est arrivé, comme nous l'y avions convié, avec plusieurs personnalités qui vont passer entre midi et demi et puis deux heures. J'aurais bien voulu que, Jean-Pierre, tu nous dises ta première rencontre avec Frêche, parce que c'est pas d'hier. Comment ça s'est passé? Parce que tu le connaissais pas au départ, évidemment. Alors, comment ça s'est passé? La première rencontre, il y a 27 ans, non?
Ah, c'était... Vous allez comprendre qu'avec lui, entre lui et moi, les choses étaient simples. C'était... En 83, j'étais élu maire de Castelnau, et lui, naturellement, était maire de Montpellier, et président du district. Au début, il y a eu quelques mois, quelques semaines de flottement. Puis un jour, on a dit, il faut qu'on se voit. Et je crois que c'était un dimanche matin. On a pris chacun notre voiture. À l'époque, les portables, c'était pas aussi ça, il n'y avait pas les portables. On a pris notre voiture, on s'est retrouvés devant Rimbaud. Il m'a dit, il faut qu'on se parle. Tu me suis. Et je l'ai suivi en voiture. Et nous sommes allés dans ce qui, à l'époque, n'était pas encore Antigone. Il y avait une vieille usine. Dans cette vieille usine où on fabriquait des maillots de bain, nous, on s'est retrouvés dans la cour, il n'y avait personne, enfin on croyait qu'il n'y avait personne, et puis on a dit, il faut qu'on parle. Et puis à ce moment-là, on a eu l'un comme l'autre une envie pressante. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes rapprochés d'un mur, et pendant que nous gérions cette envie pressante, on a dit, bon, écoute, on va marcher ensemble, on va travailler ensemble, ok, pas de problème. Voilà comment a débuté 27 ans de vie politique et de gestion commune.
C'est joli, ça. C'est joli.
C'est très beau, ça.
Bon, alors, d'ailleurs, comment vous avez fait connaissance l'un et l'autre, on dit de Fraîche qu'il était un grand blagueur, un gouailleur, un gaulois. Sa meilleure blague, dont tu te souviens, qui t'a vraiment fait rire. Non,
de ce côté-là, j'ai pas trop de.
J'ai pas fait de gauloiserie ensemble.
Non, pas du tout. Non, parce que non, j'ai pas fait ça. Non, j'avais avec lui des relations très très franches, très très personnelles. Sans aucun, il y a encore quelques semaines avant qu'il ne parte en Chine, je l'ai vu chez lui à son domicile.
Très professionnel.
Le matin, tous les deux, on a pris le café, on a parlé, voilà. Et on a parlé 5 minutes des affaires qui nous préoccupaient, parce qu'il faut pas plus de 5 minutes pour régler les affaires, y compris importantes, quand naturellement c'est clair dans la tête de l'un et la tête de l'autre. Et puis ensuite on a un petit peu parlé de la France, parce que naturellement ça le préoccupait, la situation de la nation le préoccupait. Et puis il m'a expliqué qu'il partait en Chine, et puis voilà, et je l'ai pas revu.
Et en 27 ans, vous avez quand même bien dû vous engueuler au moins.
Jamais.
Jamais une engueulade.
Je n'ai jamais eu une engueulade avec Georges Fraîche en 27 ans.
Parce que pourtant,
je vais être le seul à Montpellier.
On le disait vraiment colérique. Donc
jamais.
Et t'as jamais assisté à une engueulade
Si, mais quand il faisait quelque chose qui, il m'est arrivé un jour qu'il soit un peu rude avec quelqu'un en ma présence. Je m'étais permis de lui dire que, en ma présence, je préférais que ça ne se reproduise pas. Mais voilà. Non, mais honnêtement, jamais. J'ai jamais eu de bras de fer. J'ai jamais eu. Non, jamais.
Il n'y a jamais eu de clash.
Jamais. On a fait plein de choses ensemble. Je l'ai soutenu dans pas mal de combats. Le combat pour Odysseum était quand même un combat épique. Hein. C'était particulier.
Le tramway aussi.
Le tramway, mais Odysseum, c'était plus musclé. Hein. Ouais. Il y avait de fortes réticences. Ma voix était indispensable à l'époque pour des raisons techniques et administratives. Et voilà, et donc ça s'est très bien passé. Non, vous savez, je vais vous dire, moi, s'il fallait mettre les choses un petit peu en lumière d'une certaine façon, je dirais que qu'est-ce qu'on va retenir de Fraîche? Ben, on va retenir de Fraîche comme on retient des Romains dans notre région, hein, les arènes de Nîmes, la Maison Carrée. Lui, on va retenir le Corum, Odysseum, Antigone, les tramways, etc. Voilà.
Donc
je crois qu'il faut pas.
Chers.
Voilà, il faut pas. Je crois qu'il faut être très simple. Et ça, je pense que c'est le plus bel hommage, parce que Georges Fraîche, c'est quoi? C'est un intellectuel, un historien. Donc d'un côté, sa démarche politique, sa réaction politique, son engagement politique, il était sur deux pieds. D'une part, ses références historiques, sa réflexion historique, et d'autre part, ses convictions républicaines d'aménagement du territoire. Et tout ça dans la modernité. Donc je trouve que, finalement, pour toutes ces raisons-là, c'était facile de bosser avec lui.
Et le meilleur souvenir que tu as pu avoir avec lui?
J'ai pas de mauvais souvenirs et j'ai pas de très bons souvenirs. Les bons souvenirs, c'est quand on décidait quelque chose.
Jamais une petite bouffe. Vous êtes un peu épicurien tous les deux.
Oui,
non
bien sûr. J'étais pas dans l'intimité d'aller. Non, moi, mon intimité, elle était très. Comment dirais-je?
Politique.
Elle était politique.
C'était l'homme public que tu connaissais.
Elle était politique. Non, mais un petit peu plus, mais. Mais il y avait beaucoup de pudeur dans nos relations. Je veux dire, on avait beaucoup plus de plaisir à se retrouver tous les deux devant une tasse de café à 8 heures du matin chez lui, hein, ou ailleurs. Voilà, c'était là on pouvait se parler, on était reposés.
C'était bien au-delà de vos deux camps, hein, puisque là vraiment vous retrouviez forcément les hommes politiques peuvent se retrouver quand ils sont d'accord sur le fond. Vous êtes d'accord avec moi sur le fond, hein.
Attends, c'est évident. On peut pas travailler avec des gens et avoir ces relations-là avec quelqu'un si on n'a pas un minimum de correspondance de pensée. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, ouais. Si on n'a pas une vision, si on n'a pas idéologiquement et philosophiquement des points de repère qui nous rapprochent.
Sur la place des grands hommes, par exemple.
Il a fait la statue du général de Gaulle.
Voilà, quand même.
Je pouvais ne pas y être.
Voilà.
Et comment est-ce qu'on pourrait le définir plutôt historien ou plutôt juriste?
Pas juriste, historien. Historien, oui. Et élu.
Homme de gauche?
Oui, profondément.
Oui, vraiment,
oui,
vraiment,
parce que mais vous savez, en
visiblement,
France,
tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Enfin, surtout ceux de, un certain nombre de ceux de gauche.
Non mais, je veux dire, il faut observer que tous ceux qui l'ont combattu médiocrement, c'était soit des gens qui étaient redevables, soit des gens qui l'avaient battu. Mais ça, c'est la vie politique. Hein. Donc, c'est pas, il faut pas s'arrêter là-dessus. En revanche, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est l'œuvre construite. Et le bâtisseur n'a jamais laissé de côté les intérêts collectifs des plus faibles. C'est-à-dire qu'en fait, il a ouvert ce qu'il y avait de plus beau aux plus modestes.
Oui, avec la mixité sociale, notamment en Antigone.
Permettre d'aller se baigner dans la piscine d'Antigone, quand vous êtes en grande difficulté, ça veut dire que vous avez accès à un grand palais de glace, comme tout le monde, et tout le monde est au même rang dans la piscine.
Comme
c'est beau.
Comme pour la culture aussi, hein, je pense.
La
que
culture
vous devez,
pour tous, c'est quelque chose assez...
Comme Malraux, hein,
mais,
là, vous...
Mais on retrouve, si vous voulez, de la part d'un certain nombre de personnes, d'hommes, si vous voulez, je le dis, je le redis, dans Georges Frêche, il y a, je parle toujours au présent, il n'est pas encore en terre, il y a du socialisme, il y a du socialiste, il y a du gaulliste.
Du gaullisme.
Et puis il y a un peu d'anarchiste.
Oui, c'est ce que disait.
Un peu de révolutionnaire. Mais juste ce qu'il faut pour que ça ait du goût.
Oui.
Et on retiendra de quoi de lui? Le maire ou le président? Bon, le maire, bien sûr.
C'est très fondu, parce que c'est très fondu parce que l'aménagement de l'aire montpelliéraine, ça comprend Montpellier, les communes alentour, au travers de l'agglo et aujourd'hui de l'agglo, hier du district. Non, je crois que si vous voulez, c'était un aménageur du service public. Bon, il est mort hier soir. Moi, je le disais sur une autre antenne tout à l'heure. Il est mort à la tâche un dimanche soir. Alors que tout le monde était chez soi, qu'il pleuvait, il était dans son bureau, 8e étage ou 10e étage, je ne sais plus, de la
région,
de l'hôtel de région, et il travaillait.
Il est mort de son vivant, dirait Coluche.
Voilà, il est mort à la tâche, il est mort dans l'exercice de sa fonction. Je pense que c'est. Alors en plus, bon, c'est un peu ce qu'il avait dit d'ailleurs dans des interviews radio télévisées pendant la campagne. Régional, qu'il mourrait à la tâche. Mais cette mort dans le travail, enfin, en plein travail, un dimanche, et en fait, il, sans le vouloir, il réhabite aussi l'image que nos concitoyens ont des élus.
Des élus, voilà.
Et ça, pour ça, on lui dit merci.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire pour achever son œuvre? Parce que les statues, justement, la fameuse affaire des statues. Bon, il en a mis 5. Il y en a 5, normalement, à venir.
Ah, mais attends. Ça, tout ça, c'est si ça fait venir du monde à Odysseum, moi, je vous dis, il y a la statue de Gaulle, ça me va. Il y a Churchill, ça me va. Bon.
Il y a Roosevelt.
Voilà, Roosevelt, ça me va.
Il y aura Golda Meir.
Voilà, bon, je sais pas si il y aura Golda Meir.
Mandela.
Bon, voilà, tout ça, ça.
Il faut pas arrêter ça. Il faut redire,
ce qu'on retiendra de Georges Frêche. C'est ce qu'on a retenu des Romains dans notre région, la Maison Carrée, les arènes de Nîmes, la voie domitienne. Et bien là, on retiendra ce qu'il a construit, c'est-à-dire des grands équipements. Regardez l'autre jour, sa dernière grande et belle inauguration, c'était Arena.
Oui, Arena. Le nouveau grand
c'était
stade.
C'était intéressant dans cela.
La grande salle.
D'abord, il y avait beaucoup de monde, donc ça s'est très bien passé. Enfin, je ne sais pas si vous y étiez. Dans tous les cas, j'y étais, on était nombreux. Bon, c'était un grand et beau moment populaire, mais c'était aussi une belle construction. Mais il était déjà sur d'autres choses. Et il est comme, bon, quelque part modestement, on est un petit peu pareil, certains. C'est-à-dire que quand vous avez fini de construire quelque chose, que vous l'avez décidé, qu'il a été construit et que vous l'inaugurez, vous êtes déjà sur autre chose. Il était déjà sur autre chose. Et pour lui, il déroulait déjà les futures ambitions pour l'agglomération. Ça, quand même, c'est chic.
Et au niveau sportif, c'est remarquable
chic.
Aussi.
Alors, bien sûr, l'équipement lui-même était.
En même temps, il le disait, Arena a attiré pratiquement personne.
D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Je
dis, alors que les statues, oui.
Je le dis sur votre antenne. Je pense que Arena devrait porter son nom.
Oui.
Parce que ça, c'est quelque chose. Elle a pas de nom, Arena, c'est pas un nom.
Non, Arena.
Bon, c'est vrai que cette salle devrait porter son nom. Pourquoi porter son nom? Parce que c'est une salle où toute la société, tout le peuple de tout le peuple va se retrouver
dans des tas d'événements différents.
Qui soient culturels, sportifs.
Tu vas le proposer en conseil d'agglo?
Mais je le propose pas. Tiens, ben je le propose aujourd'hui ici en exclusivité.
Ah voilà, bravo.
D'accord, bon, on transmettra.
Alors en ce qui concerne Castelnau, deux choses. D'abord, ce matin à 8h, mes services de la ville mettaient tous les drapeaux de la ville en berne, ce qui me paraît normal. Et puis, je vais proposer au conseil municipal que la grande avenue du Mas de Rocher, qui est en grande rénovation actuellement, avec le pont sur le chemin de fer, tout ça aussi.
C'est une véritable
œuvre d'agglomération, porte désormais son nom.
Bah, écoutez, voilà.
D'accord. Voilà. Déjà, décision en conseil municipal, quoi.
Bon, voilà. Bonjour,
bien sûr. Bon, Jean-Pierre Grand, merci d'être venu. Et puis, de toute façon, on va se retrouver certainement, si t'es libre, dans les mois qui viennent, parce qu'il y a les élections quand même au conseil général.
Ah bon?
T'es pas au courant. Non. Bon, tu verras, ce sera marqué dans la presse.
Je lirai la presse à ce moment-là.
Jean-Pierre, merci de ton passage.
Bon courage.
Merci. Un petit coup de musique, un petit Renaud. En souvenir encore de Georges Fraîche.
Nous les paumés, nous ne sommes pas aimés. Des grands bourgeois qui nagent dans la joie. Il faut avoir, pour être à leur goût, un grand faux col et un chapeau mou. Ça ne fait pas chic une casquette, ça donne un genre malhonnête. Et c'est pourquoi quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt: c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Ça joue du poing de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Toutes les belles dames pleines de perles et de diams, en nous croisant ont des airs méprisants. Oui, mais demain, peut-être ce soir, dans nos musettes, elles viendront nous voir. Elles guincheront comme des filles en s'enroulant dans nos quilles. Et nous lirons dans leurs yeux chavirés l'aveu qu'elles n'osent murmurer. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Mais y a pas mieux pour donner le grand frisson qu'un mauvais garçon. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Mais y a pas mieux pour donner le grand frisson qu'un mauvais garçon.
Ce qu'il voulait dire le mec par là dans la chanson, là, quand il termine la chanson par « Il n'y a pas mieux pour donner le grand frisson qu'un mauvais garçon », dans un langage un peu différent, de nos jours, il aurait dit parce que...
Retour dans nos studios 93.9 après donc ce témoignage de Jean-Pierre Grand, député maire de Castelnau,
qui est pas un mauvais garçon,
contrairement à ce que fut notre camarade Georges Fraîche. Et ben on va passer à une petite rubrique que je vais appeler souvenir, parce qu'en fait que ce soit le major ou moi, on a débarqué dans la région 79. On débarquait de Paris. Et on s'est installé non loin de Clermont-l'Hérault.
Moi, je venais même de plus loin, de Londres.
De Londres, même. On était du côté de Clermont-l'Hérault, c'est-à-dire à 40 km de Montpellier, 40 km de Béziers. Et naturellement, dans un premier temps, on était tourné vers Béziers. Je me souviens faire réparer ma moto plutôt à Béziers. On allait faire nos courses plutôt vers Béziers.
La feria, c'était à Béziers.
C'était Béziers. Et puis tout d'un coup, 1979, 80, 81, et cette bourgade endormie était en train de muter en capitale régionale. Et du coup, moi le premier, j'ai déménagé. Toi, t'as suivi un peu plus tard.
Un petit peu plus tard, mais tout le monde s'est rapproché de cette capitale.
Parce que là, il se passait vraiment des choses. Et parmi les choses qui ont pu se passer, c'est la première fois où j'ai rencontré Georges Frêche. C'était en 1984, lors de l'inauguration de la salle Victoire. Mais ça, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de Montpelliérains qui le savent, le pourquoi de cette appellation salle Victoire.
Ah, je ne le sais même pas.
Ah, bah, c'était une histoire liée à OTH, qui était le groupe de rock de Montpellier, managé par un certain Guy Barral, entre
que
autres,
j'ai connu,
qui avait sa boutique de disques. Et ils étaient en quête d'une salle, OTH. Mais ils ne voulaient pas que ce soit une salle défaite. Et du coup, ils ont voulu que ce soit une salle Victoire, d'où le nom. Et Frêche va leur donner une salle qui était dans le marécage de ce qui n'était pas encore Antigone. Et a eu lieu le premier concert à salle Victoire en 1984. C'est à ce moment-là, alors pas au jour même, mais c'est à ce moment-là que Georges Frêche rencontrait Claudine, celle qui allait devenir sa femme. Et j'ai souvenir dans les toilettes de cette salle où Georges Frêche avait dessiné un cœur avec Georges Frêche et Claudine dessus. C'était le grand amour. Il était monté sur scène, avait fait même un bœuf de blues avec je ne sais plus quel groupe qu'il pouvait y avoir. Premier moment assez exceptionnel de rencontre avec ce garçon qui était encore un jeune maire de Montpellier.
Décidément, il y a des histoires de toilettes. Monsieur Grand, tout à l'heure, nous racontait qu'il pissait avec Frêche sur le mur.
Et maintenant,
vous nous racontez que vous étiez dans les toilettes de Victoire.
Et voilà. Et donc ça, c'était une première rencontre, peut-être, avec Frêche. Et puis une deuxième rencontre. J'étais jeune professeur et j'organisais un colloque.
Ah, ça j'ai connu. 1989, non ?
Ouais, 88-89. J'organisais un colloque, bon bref, sur le bicentenaire de la Révolution française. J'avais besoin d'un soutien, d'une aide de la mairie. Et là, je rencontre Georges Frêche. Là, véritablement, je suis dans son bureau. Alors on discute, et puis il me dit « Mais vous êtes qui ?» Alors j'explique, bah voilà, je suis un jeune prof d'histoire. « Ah, vous êtes historien, moi aussi !» Alors il me dit « Je suppose que vous le savez, j'ai tué le roi Ladurie. » Et là, moi, jeune de couillon, ça me sort tout seul. Puis je lui dis, est-ce qu'il est au courant? Parce que c'est son grand truc à Frêche, c'est que sa thèse, qu'il a soutenue sur le cours du prix du blé au XVIIIe siècle, etc., aurait tué la thèse de la Durie.
Grand historien reconnu.
À cette époque-là. Mais donc Frêche, c'est vrai, grand mégalo, mais grand intellectuel. Alors, je ne sais pas si on a ce petit passage où dans une des émissions où il était passé à Divergence, il revenait là-dessus.
Bon, parce que la bande à Brodel, le roi Ladurie, Furet, j'ai pas aimé leur parcours politique. Je parle pas leur parcours d'historien. Parce que, encore que le roi Ladurie, bon, ben, on va pas parler de ça aujourd'hui, on s'en moque, mais sa thèse sur les paysans du Languedoc, c'est une authentique, elle est authentiquement erronée. D'ailleurs, aujourd'hui, le roi Ladurie ne parle plus de sa thèse sur les paysans du Languedoc, tout est faux.
Et voilà. C'était du Frêche.
C'est ce qu'on appelle se faire tailler un costume.
Voilà. La série s'est dit, c'est plus à dire. On en revient plus. Et puis, ben je le rencontre quelques années plus tard. Là, on est du côté de 2002. On est au moment des élections présidentielles.
Oui.
Et je me trouve invité au Lions Club de Montpellier où Georges Frêche donnait une conférence sur Jacques Coeur. Alors là, une grande conférence d'historiens, mais d'historiens à la mode de Georges Frêche, puisqu'il faisait rencontrer Jacques Coeur et Jeanne d'Arc, sachant qu'ils n'avaient pas vécu tout à fait à la même période. Mais ça, c'était
Jacques
pas grave.
Jacques Coeur, c'était plutôt le Canada, c'est ça?
Oui, c'était une autre affaire, quoi. Ouais. Bon, toujours est-il que il réécrivait souvent l'histoire, un peu à sa convenance, avec un brio extraordinaire. Et puis il me voit, et depuis 3 ans, j'écrivais des chroniques dans l'Hérault du Jour. Et puis il dit, je profite qu'il n'y a aucun journaliste dans la salle pour vous dire que je serai ministre du premier gouvernement lorsque Lionel Jospin sera président de la République. Et il me jette un regard de droit dans les yeux. Dans la série, il n'y a pas un journaliste. Bon, très bien. Évidemment, sortant de là, qu'est-ce que je fais? Je téléphone aussitôt à Paris, à l'atelier, ce qui était le staff de campagne de Jospin. Et écoutez, voilà, j'explique, et puis je dis, mais vous confirmez, il sera ministre de quoi? Oui, il sera ministre de l'Intérieur, ministre de la Ville.
Poste.
Donc c'était confirmé, du coup, dans l'Hérault du Jour, on fait même article là-dessus. Ça n'a pas de chance. C'est pas Jospin qui était au deuxième tour.
C'est pas la faute à Georges, là.
Qui était à l'atelier et qui faisait partie des conseillers de Jospin en 2002. Mais bon, là, bon, ça s'est pas fait. Et entre-temps, peut-être quelques jours avant ou après, je ne me souviens plus, on recevait Georges Frêche à Divergence.
Alors là, oui, c'était... Alors ça,
c'était après, les présidentielles.
C'est un petit peu après.
Après les présidentielles, mais on recevait Georges Frêche qui venait pour la première fois dans nos studios à Divergence. Bon, une émission que j'animais à l'époque s'appelait Ne nous fâchons pas avec Gilles Richard, mon collègue Gilles Richard. Et l'émission se fait, et puis on sort du studio, et Georges Frêche s'assoit dans la salle d'entrée de Divergence.
Dans le hall d'entrée, on peut dire.
On lui sert
un coup de rouge,
du gros rouge qui tâche, il se régale avec une bonne tranche de saucisson, et le voilà qui est parti dans un délire qui a duré 2 heures, voire plus.
Ah, je pense 3 quarts d'heure.
Ou alors là, il nous a raconté des choses tout à fait extraordinaires, notamment une qui m'a marqué, c'est lors de son voyage en Chine avec François Mitterrand en 1984. Il avait été convoqué par Mitterrand pour aller en Chine et pour se faire largement gueuler d'ailleurs des différentes prises de position qu'il avait pu prendre. Et donc, il est à Pékin et se retrouve François Mitterrand et Deng Xiaoping qui tous les deux
sont ministres de l'époque, pour ceux qui ne savent pas.
Et qui étaient donc côte à côte l'un l'autre. Et Georges Frêche et tout le staff étaient juste derrière. Frêche était juste derrière Mitterrand, nous raconte il. Et Deng Xiaoping avait installé un crachoir, non pas à ses côtés, mais aux côtés de François Mitterrand, et a passé plus d'une heure d'entretien qu'ils ont eu l'un l'autre à balancer des gros molars au-dessus des genoux de Mitterrand. Mitterrand qui repliait les genoux pour essayer de pas se prendre sur lui. Et Frêche nous racontant ça avec son verre de rouge et son saucisson, c'était un délice absolu, quoi.
Oui, ça résume le personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage très ambigu, très controversé, comme vous le savez. Mais c'est aussi
un truculent.
C'est aussi un personnage qui était capable, avec des gens tout à fait ordinaires comme nous le sommes, de passer du temps s'il se sentait bien et qu'il avait envie de se laisser un peu aller à des souvenirs. Oh, il nous avait parlé aussi de ses souvenirs du temps où il était étudiant et qu'il était gauchisant, on va dire. Hein. Il nous avait raconté tout ça, c'était intéressant et sans aucune... là, il n'y avait pas d'intérêt. Il n'y avait pas d'intérêt ni d'un côté ni de l'autre, donc je pense que c'était le moment où il était le plus sincère.
Quand on l'avait reçu à ce moment-là, il n'y avait pas d'élection proprement dite.
Puis nous, qu'est-ce qu'on est ? Donc, je veux dire, non, c'était pas très 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 intéressant pour lui, mais il était très content de discuter avec des gens, hein, tout simplement, tout simplement.
Voilà, bon, ça c'était du genre de Frêche, du grand cru, et puis... 2 ans plus tard, en 2004, le revoilà de nouveau dans nos studios, mais cette fois-ci avec un nouveau staff. Ce nouveau staff qu'on appellera plus tard le fameux cabinet noir.
Les apparatchiks.
C'est-à-dire Sylvain Jambon, Christian Azaf et puis Alban Zanchiello. Et qui était pas encore patron de la chose. Et Georges Frêche arrive, il se met dans nos studios et l'émission était faite de telle façon que pendant les 25 premières minutes, l'invité n'avait pas la parole. Et Georges Frêche, pendant 25 minutes, ne dira rien, il ne pouvait pas parler, le micro était fermé. Et donc, pendant 25 minutes, il se tait. Et il y avait, juste dans la technique, Sylvain Jambon qui me faisait des signes désespérés en me disant « Mais t'es complètement fou, il faisait des signes, mais le président va partir, il va se casser. » Et moi, j'avais Frêche en face de moi, mais Sylvain Jambon ne le voyait pas. Et Frêche qui se régalait, qui bougeait pas, et tout allait bien, et c'était un véritable bonheur. Et donc, ils avaient fait l'émission avec une peur bleue qu'avait eu Sylvain Jambon. Et quand il sort du studio... Il avait remarqué que Jambon paniquait complètement et il dit à Jambon oh « Non, c'était super, c'était génial, c'était fabuleux, je me suis marré !» Et il dit à Jambon « Vous avez eu peur, hein ? Vous avez eu peur, hein ? Vous avez peur que je me casse ?» Bon, ça c'est encore une fois, ça c'était du grand Frêche. Eh bien, Michael de la Fosse vient de nous rejoindre dans nos studios.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu. Je suppose que tu dois être très pris et demandé et aujourd'hui un petit peu par tous les médias. Ça, c'est mon côté breton, mon côté peut-être un peu celte. Quand quelqu'un disparaît, on n'a pas envie de pleurer. Enfin, on a plutôt envie de se souvenir des grands moments, des moments de plaisir, des moments de joie, des grandes déconnades qu'il y a pu y avoir dans tous les sens. Et j'aimerais bien que tu nous dises, parce que t'as, à quelques mois près, l'âge qu'avait Frêche lorsqu'il a commencé en politique. tu peux presque prendre le relais directement d'une certaine façon. Et j'aimerais que tu nous racontes, parce que forcément ça fait pas très 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 longtemps, la première fois que tu l'as rencontré.
Ah oui, ça,
comment ça,
ça
s'est passé la première fois? Et je suppose que c'était peut-être probablement nettement avant de rentrer en politique.
Bonjour d'abord.
Bonjour Mickaël.
Je suis Montpellierain et comme beaucoup de Montpellierains, je suis très triste. Et je pleure un petit peu de temps à autre parce que c'est quand même dans l'histoire de notre ville un grand bonhomme qui s'en va. Et vous avez raison de parler des bons moments, vous avez raison de parler du fait qu'il pouvait partir, qu'il a fait paniquer ses collaborateurs. Parlons-en en bien de Georges Frêche, parce que c'était un homme bien.
Monsieur Grand était là avec nous il y a quelques minutes, voilà. Il en a parlé de façon très très bien aussi, ouais. Donc le maire de Castelnau.
Voilà, et beaucoup de gens, et c'est bien ainsi, il y a bien quelques vautours qui déjà pointent le bout des ailes.
Ça c'est normal.
Voilà, bon. Faut le dire quand même.
Oui, ben on en a parlé du panier
de crabe. Et une petite presse parisienne, autant de gens très bien, d'autres, voilà, peu importe. Moi, je vais vous raconter la première fois que j'ai rencontré Georges Frêche, parce que c'est très rigolo. En ce moment, il y a des lycéens qui défilent, anxieux par rapport à leur avenir. Et moi, il se trouve qu'il y a 16 ans de ça, j'étais dans la même position, parce que M. Balladur avait pris un décret qui s'appelait le SMIC jeune. Et puis alors, on avait fait une manif, et il y avait 10 000 lycéens place de la Comédie. Et alors, j'étais un peu paniqué, parce la CGT nous avait prêté un mégaphone, et on se disait, ça ne suffira pas à contenir ce succès inespéré de la mobilisation lycéenne. Et là, je croise quelqu'un de la mairie qui me dit, il faut faire une lettre au maire pour avoir une estrade, un micro, pour pouvoir s'adresser à la foule. Bref, le moyen de faire vivre la démocratie. Je fais une lettre, je la soigne du mieux que je peux. C'était en première.
Ah oui, on fait encore des fautes d'orthographe.
Ça se dégrade. Mais bon, j'ai lycée actuel. C'est pour ça qu'il faut plus pour l'éducation. Et là, j'envoie la lettre, je la fais porter au cinquième étage de la mairie. Et j'ai le retour de Georges Frêche une heure après, avec un énorme OK sur la lettre, avec tout mon soutien. Signé trois fois. Et bien, je peux vous dire, quand vous avez 16 ans et que vous êtes dans un combat important qui construit votre engagement, et bien, ça vous fait plaisir. Et puis, trois semaines plus tard, conseil municipal de la ville de Montpellier, on est contacté par le cabinet du maire à l'époque, Georges Frêche, qui nous dit qu'il y aura un vœu pour le retrait du SMIC jeune. Le Front National le pourrit. Georges Frêche réplique.
C'était Monsieur Jamais.
Exactement. Et Georges Frêche réplique. Et nous, on était dans l'assistance et le vœu est voté. Un vœu de soutien aux jeunes qui sont mobilisés. Il vient nous voir et dit, moi, je suis toujours du côté de ceux qui se battent. Voilà, moi, ma première rencontre avec Georges Frêche. Il y en a plein, hein.
Ah oui, après,
mais celle-là,
c'est la première.
Je peux vous dire qu'elle m'a marqué. Voilà.
Bon, on a dit de Georges Frêche que c'était un gouailleur, un gaulois, qui faisait gauloiserie, même ses bons mots qui n'étaient pas toujours appréciés. Est-ce que tu as un souvenir de celle que tu aurais trouvée comme étant sa meilleure blague, ou vraiment, quand tu l'as racontée, bah, tu t'es vraiment marré?
Nous, on en a déjà raconté quelques-unes. Hein.
Non, moi, je ne ferai pas l'anthologie des blagues de Georges Frêche. Il y aura meilleur pour cela. Hier soir, j'entendais mon ami Guy Zemmour qui en parlait, qui disait il savait charrier, etc. Bien sûr qu'il nous faisait rire souvent, mais il en connaissait. Hein, mais je pense qu'il y aura plus spécialiste que moi. Moi, je me rappellerai surtout de ces moments absolument incroyables. Un discours, je devais avoir 17 ans, et il nous a tenus pendant 2 heures en haleine, sur le périple d'Alexandre le Grand allant jusqu'en Inde. Voilà. Et ça, c'est un tribun. Et en même temps, c'est le professeur. Et c'est le professeur qui était exigeant avec lui-même et exigeant avec les autres. Alors évidemment, quand vous voulez pas progresser, vous l'aimez pas. Quand vous avez envie d'être tiré vers le haut, vous le suiviez volontiers.
Alors justement, on a dit souvent de Georges Frêche qu'il était colérique, comme souvent un peu les grands patrons. C'était quoi ta plus belle engueulade avec lui? Il y a dû y en avoir.
Il y en a dû en avoir quelques-unes, comme tout le monde.
Ah oui, je crois qu'une fois, il y en a eu pas mal, évidemment. Je crois qu'une fois, je me suis pointé avec un projet qui était trop rikiki pour lui. Et il m'a dit, de la fosse, il faut oser dans la vie, il faut oser. J'ose, monsieur le président, il faut oser. Ah là là. Et alors là, vous êtes là, vous dites, en fait, il est colérique comment? Il est colérique comme un prof dans une classe quand il voit ses élèves qui, au fond, ne font pas ce qu'ils pourraient faire de mieux. Moi, je trouve que c'est ça. Et il fait des colères pas possibles, comme des fois quand on est affligé. Puis des fois, la colère, c'est un petit peu le moteur. C'est bien, quoi, d'être indigné, d'être en colère, voilà.
Et un peu comme tous les gens enveloppés. les colères de ces... Non, mais les colères de ces gens-là ne sont pas des colères méchantes. Le petit sec qui fait une colère, c'est méchant, ça.
Je vois que vous faites illusion.
Il y a un petit aîné en ce moment qui dirige la France. Quand il fait des colères, ça nous fait pas du bien.
Voilà.
Non, c'est surtout quand il faisait des colères, il n'était pas rancunier. Voilà. C'est-à-dire que la colère, finalement, était saine. Des fois, on était là, ça faisait mal quand même, parce qu'on n'aime pas se disputer avec les gens qu'on aime bien, on n'aime pas. Mais ça se réglait. Et même la colère permettait de faire avancer tel ou tel projet. Cyril Meunier, il raconte ça très bien aussi. Ils ont eu plein d'histoires. Le maire de Latte, qui est vraiment un homme bien aussi. Et voilà, donc... Ah là là, qu'est-ce qui manque ?
Aïe.
Et le meilleur souvenir, parce que bon, t'as connu l'homme public, bien sûr, mais t'as connu l'homme privé aussi, parce que t'es de la même génération que Julie, sa fille.
Ben, vous savez, voilà. C'est à elle que c'est Julie, mon amie, et évidemment... J'en ai trois. Le premier, c'est d'abord Georges Frêche, il m'a marié, je crois que je fais partie des dernières personnes que t'es marié par lui, et à la fin on avait prévu tout un cérémonial, c'était Julie qui faisait partie avec des copains qui organisaient ça, et parce qu'on est en Languedoc, parce qu'on est des militants, et c'est lui qui avait pris la chorale et il avait chanté Gloire à vous, brave piou-piou, soldat du 17e, voilà, et il avait son répertoire. C'est avec Julie, ça a fait polémique les statues. Mais quand on est allé chercher son papa, qu'on lui a dit « Ah, président, quand même, nous, on est obligés d'aller chanter l'International avec vous au pied de Lénine, parce que pour nous, ça nous parle, tout ça. » Voilà, ça, c'était
on en a parlé, nous aussi.
Un très bon souvenir à ce moment-là, voilà. Mmh. Et puis, ce souvenir, une fois, je me retrouve dans un petit cercle un peu semi-public, et là, cours d'histoire. Et à un moment donné, il dit « De la fosse continuer. Et là,
la suite.
En 911, effectivement, Rollon devient duc de Normandie par le traité Saint-Clair-Chat. Et là, avec sa force physique, il me tape sur l'épaule. Bien joué, jeune. Voilà, en fait, c'était beaucoup de tendresse. Parce que c'était quelqu'un derrière son aspect.
Bourru, on peut dire.
Parfois très fort. C'était quelqu'un de très tendre, de très attachant. Même si des fois, effectivement, on pouvait blesser, on pouvait avoir mal. C'est quand même quelqu'un d'attendrissant.
Alors, historien qui ne laissera certainement pas grande trace au niveau de l'historiographie.
Alors là, excusez-moi, ce que vous dites est une inexactitude. Je vous renvoie à la question du CAPES à Greg d'il y a 3 ans sur les sociétés d'Ancien Régime au XVIIe siècle, où il y a beaucoup d'ouvrages qui sont parus sur les paysanneries. Ah, et oui, Georges Frêche est dans de nombreux... Pas que sa thèse, les articles dans l'école des annales, etc. Et ses travaux sont de plus en plus cités. Il y a une nouvelle histoire qui est sortie chez Belin, où Georges Frêche est cité. Et les jeunes historiens se réapproprient ses travaux. Et rappelez-vous à la Comédie du Livre, ce moment délicieux, délicieux, avec Emmanuel Leroy Ladurie.
Ah, pourtant, Dieu sait s'il l'a critiqué.
Voilà. Et s'ils s'aiment pas, où ils ont conversé en tant qu'historien. Et donc, Georges Frêche, par ses travaux sur la démographie au XVIIIe siècle, en Midi-Pyrénées, par ses études scrupuleuses des Compoins, a aussi marqué les travaux historiques, et c'est aussi...
C'est aussi un professeur d'histoire.
Et c'est aussi un professeur et un chercheur en histoire. Et ses travaux font autorité. Alors effectivement, quand il a été maire, il a toujours été attaché à continuer à travailler. Il a moins produit, mais ses travaux qu'on fait l'objet de publication font largement autorité et sont redécouverts.
Alors si on parle de l'avenir en quelque sorte, l'avenir, il y a un avenir, j'allais dire extrêmement concret. Au mois de septembre, Georges Frêche a inauguré 5 statues. Normalement, il doit y en avoir 10, voire 15. Qu'est-ce qu'on fait des 5 autres ou des 10 autres, d'après toi ?
Je vais répondre à ça, puis je vais vous répondre un peu sur l'avenir. C'est simple, il y a une délibération du conseil d'agglomération qui a été votée. Monsieur Cacheux, sculpteur, fait les statues. Il y en a 5 qui ont été réalisées, 5 qui restent à poser. J'ose espérer qu'on va quand même pas aller chercher des polémiques sur ça. Quant à l'avenir, je vois bien, on en parlait, il y a quelques oiseaux un peu nauséabonds qui déjà s'expriment. J'ai reçu moi-même quelques coups de fil. triste.
Moi, j'ai parlé des flamants roses, c'est plus joli. Hein.
C'est plus joli. Mmh. C'est une belle campagne de com' aussi, ça, après Montpellier la surdouille. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est... Il y a un grand vide à Montpellier, en Languedoc-Roussillon, et beaucoup de gens, c'est incroyable la rue, de gens qui sont tristes, qui gardent le journal précieusement, etc. Mais moi, je crois que les idées de Georges Frêche qui ont animé Montpellier vont continuer à vivre. Et finalement, la question du devenir, elle n'est pas en les mains de quelques élus. Il ne faudrait pas que ça devienne une mauvaise pièce de Shakespeare, je pense à celle d'Henri VI, où à la fin, on se bat et on ne sait plus pourquoi. Maintenant, il est entre les mains des Montpelliérains et des habitants du Languedoc-Roussillon. Est-ce qu'on veut continuer à oser? Est-ce qu'on veut continuer à accueillir? Est-ce qu'on veut continuer à être debout? Est-ce qu'on veut continuer à être les ambassadeurs de Montpellier? Et quand il disait dans ses discours, habitants du Languedoc-Roussillon, levez-vous! Je n'ai pas la solution. Nous sommes la solution. Mmh. Et ben, c'est ça.
Continuer à s'opposer aussi, hein.
Et continuer à s'opposer sur des choses qui sont des choses graves. Oui, s'opposer à ceux qui ne voudraient plus construire le logement social alors que c'est nécessaire pour les plus fragiles. Continuer à être interventionniste dans la politique économique pour continuer à se mobiliser pour l'emploi. Continuer à oser en matière de culture. Continuer à oser en matière d'éducation. Continuer à oser en matière de transport en commun. Continuer à oser pour l'agglomération. Continuer tout simplement à essayer d'écrire une utopie, des rêves, une envie de servir le bien public. Voilà, Georges Frêche, c'est un Athénien, stoïcien de Marc Aurèle, qui s'est emparé de l'histoire, qui a écrit l'histoire. Et la question qui doit être la nôtre aujourd'hui, c'est comment, sans lui, parce qu'il nous manque déjà énormément, nous continuons cette histoire.
Alors,
merci beaucoup.
Et puis, alors, j'aimerais qu'au niveau technique, si tu pouvais nous passer quelques extraits de conversations que nous avons eues avec Georges Frêche quand il est passé dans nos studios.
Sûr.
Et puis, au-delà de ça, peut-être commenter un petit peu ces extraits-là qui datent d'il y a un an maximum.
Je suis peiné de ce qui se passe au Parti Socialiste. Parce que, vous savez, on ne milite pas impunément 35 ans avec des gens sans les aimer. Alors moi, il y en a quelques-uns que je méprise profondément, mais la grande majorité, je les aime.
Des noms?
Oh non, mais les militants, c'est les miens. Tous les militants ici. Moi, par exemple, quand je suis arrivé à Montpellier, le Parti Socialiste, il était là, dans la rue Colo, là, il y avait 30 personnes. Quand je suis parti, il y en avait 3500. Donc je les ai fait adhérer les uns après les autres, chacun. Et ce sont mes amis. Et ceux-là, je ne les lâcherai jamais.
Alors, effectivement, il a transformé le PS au moins au niveau local, mieux que ça, au niveau fédéral, voire même au niveau régional. Il y a quand même un sérieux problème au niveau du PS aujourd'hui, lié à Georges Frêche d'ailleurs, à son éviction. C'est quoi l'avenir de ce PS? Est-ce que tu es d'accord avec Georges Frêche quand il dit, en gros, le PS c'est fini, il n'y a plus l'avenir, enfin.
Je sais pas si le PS c'est fini. Moi, ce qui me frappe au Parti Socialiste à Montpellier, c'est, alors que dans les sections socialistes parisiennes, il y a des directeurs de cabinet, des énarques, des gens qui, finalement, la notion de travail connaissent pas à Montpellier. Souvent, ce sont des sections très populaires.
Tout à fait.
De gens issus du monde du travail, de petits retraités, de gens qui ne demandent rien, qui ont toujours donné. Voilà. Ça, il faut aussi que ça demeure. Parce que lui, il donnait beaucoup de conseils précieux. Il disait les syndicats, 8 syndicats, 8% de syndiqués. Il faut unir les syndicats. Il disait le Parti Socialiste, c'est le parti du peuple, c'est le parti du travail, c'est le parti des petits. D'ailleurs, quand on parlait de l'histoire des retraites, il disait il faut s'occuper des employés, des ouvriers. Moi, je pense que c'est ce débat-là qu'il faut continuer à porter. Voilà, c'est aussi ça une forme de fidélité. On peut pas être responsable du Parti Socialiste et ne pas conserver son travail. Lui était toujours prof d'université et surtout moi, ce qui me frappe, c'est que ce personnage était capable de parler. Il a parlé à Gorbatchev, là, quelle belle image. Il était capable de parler avec quelqu'un qui avait pas de logement, pas de toit pendant une demi-heure. Mmh. Voilà, parler aux âmes comme parler aux puissants et respecter. Donc moi, son propos là, c'est lui quoi.
Un autre extrait.
Aujourd'hui, le Parti Socialiste, que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de mes amis, je les aime. Mais
vous avez encore des amis au PS?
Mais beaucoup, bien entendu.
Non.
Mais j'en ai pas à Paris, mais ici région, dans toute la région, et à Paris aussi, j'en ai beaucoup plus que ce que vous imaginez.
Oui, alors ça c'est peut-être la bizarrerie au niveau de Georges Frêche, c'est que si les Parisiens l'ont éjecté, ça n'a pas été le cas du tout des Languedociens, encore moins des Héraultais, et certainement pas des Montpelliérains.
Ah non.
Et l'Allemandrou en a fait les frais quelque part lors des régionales.
Évidemment, Georges Frêche, c'est on lui a dénié le fait, on lui dénie. Enfin, j'observe une chose avant de répondre précisément, quand même. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas de réaction officielle des institutions de la République au décès de Georges Frêche.
Ni de la présidence de la République, ni du Premier ministre.
Ni du ministre de l'Intérieur. Nous n'avons aucune, qui pourtant a autorité sur les collectivités locales, en tout cas, dans une... rien. Par contre, j'observe, et j'en suis heureux, que l'ensemble des leaders de la gauche ont rendu un hommage à Georges Frêche. Parce que Georges Frêche, c'est un homme de gauche.
Sauf comme Bendit. Ah. Ce matin, et son acolyte local, Jean-Louis Roumégas.
En tout cas, les grandes formations sont exprimées alors qu'il y a eu des désaccords. Alors ensuite, ici, c'est simple, Georges Frêche, comme c'est un homme de gauche, le peuple de gauche, il est au rendez-vous quand il s'agit de voter. Et les Montpelliérains, au-delà, même s'ils ne sont pas forcément d'une sensibilité de gauche, parce que c'est obligé d'être de gauche pour voter.
On a eu M. Grand qui est gaulliste.
Exactement, et parce que le gaullisme, c'est aussi une forme d'intervention publique, de volontarisme public, se sont retrouvés dans cette figure de l'action publique et Georges Frêche, qu'on dit qu'il est un bulldozer. Mais le bulldozer, c'était nous tous. C'est-à-dire, quand il a bâti Antigone, il a bâti un quartier pour nous tous. La ville, elle est malade. Regardez ce qu'il y a à Grenoble. Regardez ces pavillons périurbains qui posent des problèmes écologiques. Et à Antigone...
Oui, il a fait de la mixité sociale.
Eh oui, il a fait de la mixité sociale.
En plein cœur de ville, oui.
Il a fait des espaces publics. La ville, là, elle est en chantier. Alors, ça fatigue les Montpelliérains. Mais tout le monde sait que c'est pour notre bien. Et on sait que quand Georges Frêche prenait ses délibérations au conseil d'agglomération, c'était le volontarisme qui s'exprimait. Et donc, je crois que les électeurs, à chaque fois, ils ont connu ce volontarisme public, c'est les idées qui l'ont emporté. C'est les idées que Georges Frêche défendait. Et voilà. Et que, d'ailleurs, quelques leaders parisiens ont oublié. Je suis atterré de la réaction de Christophe Girard, adjoint à la culture à Paris, qui dit ça ne l'attriste pas plus que ça. Quand on sait ce que Georges Frêche a défendu en matière de culture, quand ici il n'y avait rien. Mais quand je dis rien, il n'y avait rien en province.
Ah, mais vous étiez même peut-être même pas
né. J'étais pas né quand Bagoué.
Nous, on avait déjà.
Et quand Bagoué était accueilli ici et que cette ville de 260 000 habitants, elle a une offre culturelle qui, quand des gens viennent d'ailleurs, se disent mais c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, c'est juste l'envie de continuer ce mouvement, moi, qui m'anime.
Alors, j'ai un petit scoop pour vous, Monsieur Grand, toujours lui-même, puisque c'est celui qu'on a reçu avant vous. Donc, on a retenu ce qu'il nous a dit. Et il va proposer donc que l'aréna soit baptisée la salle Georges Frêche.
Écoutez, je sais pas exactement quelle forme et quelle ampleur
mais
doit prendre l'hommage. Je le souhaite évidemment très large, mais pourquoi pas. Il faudrait une salle, une avenue. Il y a beaucoup de choses à faire. Il appartient peut-être.
Il y aura une avenue à Castelnau.
Monsieur Grand,
à Castelnau.
En tout cas, c'est clair qu'un homme qui a autant imprimé sa marque mérite un hommage à sa dimension.
Et ce qui est bien, c'est que c'est pas forcément quelqu'un de son camp, donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien.
Mais Monsieur Grand est un homme d'une courtoisie qui fait honneur à la République.
Voilà. Alors il a proposé de l'avenue qui vous savez, qui passe sous le pont là, la nouvelle avenue qu'ils sont en train de construire. Il a proposé donc de la baptiser Georges Frêche.
C'est très bien. Je vais vous dire, à Montpellier, il faudra sans doute aussi qu'il y ait une rue, une place. Je formule juste un vœu, c'est qu'il y ait le plus de boîtes postales possible pour qu'il y ait dans des générations futures des enfants qui demandent à leurs grands-parents ou à leurs parents, papa, maman, qui était Georges Frêche ? Et on pourra répondre une liste de réalisations. Et je pense que, voilà, et qu'il continuera, j'espère.
Encore un dernier petit extrait.
Oui, oh, mais c'est pas César, Sarko.
Bon, ça, c'est ce type de phrase. Bon, ça fait marrer.
Qu'est-ce que ça fait plaisir de les entendre.
Allez, encore une autre.
Mais au sommet, Martine Aubry, c'est pas une imbécile, c'est une femme de qualité. Mais elle n'a aucune classe, elle est tout juste bonne pour être maire de Lille.
Bon, ça, pareil.
Je fraîche.
Voilà. T'en as pas encore une autre, là, comme ça, dans la série? Allez, il cherche.
Ah, il y en a des bonnes, il y a des bonnes.
Allez, vas-y.
Mais les partis, moi, écoutez, les partis, je les aime. J'ai vécu 37 ans au Parti Socialiste, donc moi, je suis, d'une certaine façon, un homme de parti. Mais maintenant que j'en suis parti, je vais vous dire, un de ces jours, il y aura un congrès, Martine Aubry sautera, vous verrez.
Bon, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Alors, est-ce que c'est juste des mots pour des mots ou est-ce qu'il y a aussi du fond derrière?
Mais bien sûr qu'il y a un fond, parce que quand il dit qu'à un moment il faudrait faire un grand parti de la gauche, ce qu'il écrivait, ou quand je vous parlais 8 syndicats, 8% de syndiqués, un grand parti de la gauche, voilà, ce sont des idées qui sont justes, qu'il faudra continuer à défendre. Moi, je suis frappé, il était en Chine. Voilà, il disait récemment, nous ne traversons pas une crise économique, nous traversons un changement de monde. Voilà, il allait en Chine parce que ce monde-là, qui est un monde qui a toujours existé, que les Occidentaux, par leur vision ethnocentrée, n'ont jamais regardé.
Et que lui connaît.
Et que lui connaissait très bien. Eh ben, il a vu, et je crois que, voilà, c'est ce qui faisait aussi un très grand bonhomme politique. C'est-à-dire qu'il avait une vision au-delà du pas de porte, même s'il faut que le pas de porte soit entretenu, mais qu'il savait regarder. Et moi, j'en garde ça. C'est-à-dire une envie que l'action publique, c'est bien évidemment s'occuper de notre qualité de vie, c'est très important, mais c'est aussi savoir appréhender le monde tel qu'il est pour essayer de le changer. Voilà. Et quand on va en Chine défendre les viticulteurs comme il l'a fait, ou tout ce qu'il a fait, ben, peut-être qu'il avait compris le monde. Vous savez, il y en a qui râlent, il y en a qui agissent. Georges Frêche, c'était quelqu'un qui avait la trempe de celui qui agissait, et en plus, il y avait le verbe.
Alors, encore un bon mot de Georges Frêche.
On a un truc en commun avec Mélenchon, vous savez ce que c'est? On considère tous les deux que le Tibet est chinois.
Eh ben oui, il disait ça, et puis vous savez comment il allait argumenter cela, parce que je me souviens lui avoir un jour offert la géographie universelle d'Élisée Reclus. Hein, Élisée Reclus, le géographe anarchiste libertaire du 19e siècle, et qui expliquait que le Tibet était une province chinoise. Bon, voilà, il avait ses convictions, il avait ses combats, sa façon de le dire, et sa malice politique, parce que Jean-Luc Mélenchon, il le portait pas dans son cœur, mais ça faisait rigoler. D'être copain, c'est aussi un virtuose de la politique, Georges Frêche.
Allez, une dernière. Racontez-nous votre voyage en 84 avec François Mitterrand.
À ce moment-là, non. Parce que à ce moment-là, je connaissais pas Mitterrand dans ces années-là.
Ah oui,
dans les années 61, 62, 63, je connaissais pas Mitterrand. Donc moi, je vous dis, j'ai quitté, je suis allé en Suisse, je me suis entendu avec les Chinois, puis après j'ai été expulsé de Suisse, je suis rentré, j'ai tout laissé, j'ai appris le latin, le grec, l'allemand, l'italien, et j'ai préparé l'agrégation d'histoire du droit et de droit romain.
Studio, ça y est, ça continue à arriver. Monsieur le ministre, Jean-Claude Guesso, qui est avec nous, Béatrice Négrier,
c'est clair.
Mais tu sais,
je préfère le dire parce que vraiment, pour moi, bon, le problème, c'est pas un problème de médias. On vit un moment assez difficile.
Alors, ça, c'est, mais justement, mais le vieux breton que je suis disait tout à l'heure, nous, quand il y a quelqu'un qui disparaît, on va le pleurer, mais on va d'abord se souvenir ensemble, commémorer les bons moments.
Les bons moments.
Les grands moments. Les moments joyeux, les moments de déconnade, les moments, des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Et c'est un petit peu pour ça que je voulais vous avoir, non pas pour qu'on ne pleure pas ensemble, bien sûr. Bon, mais ça c'est pas la question, parce que il y a 500 000 Montpelliérains, Anglo et Roleté et Languedocien et peut-être au-delà qui sont dans la même idée. Mais moi j'aurais voulu que, là comme l'autre, Béatrice, Jean-Claude, vous nous disiez quand vous avez rencontré Frêche la première fois, quand vous l'avez rencontré la première fois, la première rencontre, comment ça s'est passé?
Ah, alors, attends.
C'est une vieille histoire, ça, je suppose.
La toute première fois.
La première fois. La rencontre. Mais une vraie rencontre, c'est-à-dire on se parle. En plus, il négociait. Il était venu me voir, j'étais ministre pour.
C'est assez récent, alors. Enfin,
Oui. Non, je l'avais rencontré, connu. Frêche, c'était.
Un personnage du coin, on va dire.
Un personnage. Voilà. Oui, mais moi, j'étais en région parisienne.
Eh oui.
Et depuis 1976, et rappelez-vous, je crois que Georges Frêche a été élu en
77.
73 députés.
Et 77 maires.
77 maires.
77 maires. D'ailleurs, c'est cette année-là où la gauche
avait pris quasiment tout.
Il y avait même beaucoup de maires communistes qui avaient été élus, y compris
je suis originaire du Havre, alors on connaît les maires communistes.
Du Roméa.
Du Roméa, 77, exactement, qui avait succédé à Corse.
Revenons. Et donc, je connaissais, mais ceci étant, la première fois où j'ai eu un échange, c'est dans les années, la fin des années 90. Et puis, c'était à propos du LES et le président Frech qui voulait à tout prix, et c'était, son idée était bonne, mais comme toujours, c'est un homme qui avait, comment dirais-je, l'idée de l'excellence surtout. Tu vois, alors, le souvenir que j'ai, c'est ça. Il vient dans le bureau au ministère. Ouais, il me dit, alors il nous dit, ouais, le LES de Montpellier à la mer a fait En fait, c'était vraiment la démarche. Donc, j'ai en mémoire ce moment-là. Ça date de plus de 10 ans. Voilà.
D'accord. Et bien, la première rencontre avec Georges Lefrèche.
Avec Georges.
Alors, déjà en 77, j'étais en terminale au lycée qui s'appelait Mas de Tess avant, et j'ai fait sa campagne avec d'autres jeunes. Mais la première fois où je l'ai vraiment vu, j'étais à la tête d'une manifestation et je rentrais dans son bureau pour aller. Donc c'était en 1980, avec des parents d'élèves à Verbois. Nous habitions dans des logements sociaux tout neufs, magnifiques, mais nous n'avions pas d'école. Donc, on avait créé un collectif. Et là, donc la première fois, c'était... chaud quoi, hein. Et c'était pas facile au cinquième étage de la mairie. Là, il était impressionnant, hein, pour la jeune maman que j'étais à l'époque. Là. Mais j'avais tenu bon, j'avais dit c'est scandaleux, nos enfants, ils sont plus près de l'école Saint-Odile que de l'école de l'Aiguelongue. Et puis on avait vraiment des soucis pour garantir la laïcité. Les gens, ils allaient au plus près quoi. Et moi, j'étais militante laïque et j'avais emmené plein d'enfants avec plein de croissants. Mais tu sais, des croissants dégueux qui font plein de miettes là, des grands paquets de 40 là, il y en avait plein la moquette, enfin, c'était terrible, et ça l'avait beaucoup agacé, parce que lui, il aurait préféré une rencontre entre adultes quoi, mais là il y avait tous les petits de maternelle au milieu, enfin, c'était terrible, voilà la première rencontre, et puis il y en a eu plein d'autres,
Après, j'ose imaginer, et alors, on a dit de Georges Lefrèche que c'était un gouailleur, un gaulois, oui. Qui aimait les grands mots, les plaisanteries, et puis tout ça. Est-ce qu'il y a une blague, l'un comme l'autre, qui vous a vraiment fait marrer, ou est-ce que, non, de la démo, non, c'était pas franchement le truc?
Non, ce qui me faisait marrer, c'est que quand on lui racontait une blague, tout de suite, il essayait de la répéter, mais il se gourait souvent, il se trompait. Alors, la chute était pas terrible. Ça, c'était marrant, mais c'est vrai que...
Ce qui était marrant aussi...
La grivoiserie et la gouaillerie, la gauloiserie de Georges Lefrèche faisaient partie de son personnage. Voilà, ça c'est sûr.
Un vrai méridional, quoi.
Oui, un méridional, bon...
Enfin, un gaulois, quoi. Un gaulois.
Il est sorti à des moments où on s'y attendait pas.
Mais quand même, très, très influencé par le latin.
Ah, oui.
Et alors, l'un comme l'autre, vous avez bossé avec lui au conseil régional depuis 2004. Je pense qu'il y a bien eu un jour, forcément, l'un comme l'autre, où vous avez eu une grosse engueulade.
Ah, ça peut arriver.
Alors, comment s'est passé la plus belle engueulade que vous avez eue avec lui, quoi?
Non, moi je vais vous dire. Là, je parle vraiment à la fois comme... être humain, individu, et un peu comme communiste, comme dire responsable de mon parti. Moi, j'ai toujours apprécié l'attitude de Georges Lefrèche par rapport aux communistes. Et par rapport à moi-même, bon, il y a eu des tensions, c'est sûr. Et on va pas ici...
Avec tout le monde.
Répéter l'histoire. Mais il y a eu des tensions dans le sens de la confrontation d'idées, du débat, de... Et alors, ce qui était agréable, moi j'ai presque envie de parler de nos rapports, de mes rapports, y compris avec Georges Lefrèche, d'amitié. Voyez,
beaucoup de personnes font comme vous. Hein.
Que d'aucuns disent de Georges Lefrèche qu'il n'avait aucun ami.
Alors que depuis qu'on reçoit
je
des gens,
je crois qu'on en est très loin.
Mais Georges Lefrèche avait chaque fois que je parle au passé, ça me fait j'ai mal au cœur parce que c'est tellement brutal ce qui nous arrive. Quand c'est injuste au fond. Mais il était souvent excessif, si je puis dire. Il était excessif.
Il n'a pas été tendre avec les communistes. On doit peut-être avoir un petit extrait là-dessus au niveau Parti communiste.
Oui,
vas-y, finis la phrase.
Oui, Mais il n'a pas été tendre avec les communistes, il n'a pas été tendre
avec personne.
Avec personne. Mais il était, quand il est renté, il était très dur. Et quand il flattait, il était trop bon.
Voilà.
Ça, c'est du, c'est Georges Frêche. Il est, voilà, c'est un cas particulier, Georges Frêche.
Dans
c'est,
la politique, oui.
Il est sorti de la norme, si je puis dire. Mmh. C'est pour ça qu'il est ce qu'il est. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous en parlez.
Écoute ce qu'il pouvait dire sur notre antenne, il y a quoi? Il y a un an.
Les Russes, vous ne pouvez pas les avoir avec trois grains de riz.
Les Russes, on peut pas les avoir avec trois grains de riz, dit-il.
Oui, mais déjà, là, tu vois, tu es en train de passer à côté. Tu es communiste et les Russes.
Non, les Russes ne sont pas communistes.
Pourquoi tu parles, tu mélanges le Parti communiste?
Attends, non, c'est pas moi. C'est pas moi, je cite Georges Frêche qui était en train...
Oui, il parle de la Russie, j'ai entendu. Là.
On a un autre extrait là-dessus? Non, on a rien d'autre là-dessus pour l'instant sur au niveau du Parti communiste.
Ce qu'il a dit. Et il a dit, il y a des choses où je lui ai dit un jour, j'ai dit arrête de dire que c'est parce que le Parti communiste a mené la bataille de produire français que le Front National, non, pas au lendemain de la guerre, là, dans les années 80.
Les années 80 aussi. Ouais, 80 aussi.
En plus, c'était moi qui avais initié le slogan produire et créer français, PCF, tu vois un peu. Et
c'est devenu PC pour ou contre, quoi.
Et il disait, ça fait le jeu un peu du nationalisme et de l'extrême droite. Ce n'est pas vrai. Et je vais vous dire une chose. Ces derniers mois, ces dernières années, quand Georges Frêche a dit, mais sur le problème de l'industrie, il y a un vrai problème en France, eh bien, j'étais heureux d'entendre ces propos-là. Bien sûr, pas l'industrie du 18e ou du 19e siècle, mais l'industrie avec la technologie, avec la robotique, avec l'informatique, c'était ça.
Et avec l'emploi.
Et donc, l'emploi, au bout du compte, ouais. L'emploi chez nous. Ouais. Voilà. Voilà quelques éléments, y compris où nous avions eu des appréciations divergentes. Mais
qui revenaient à la fin.
Quand Georges Frêche dit « Pourquoi je mets Lénine ?»
Ah, ça c'est une belle chose qu'il a fait.
Quand il dit « Pourquoi je mets la statue de Lénine ?» Bon, on peut toujours discuter.
Mais parce que c'est un grand homme du 20e siècle.
Et parce que sans Lénine, il n'y aurait pas eu la décolonisation.
Oui, parce que c'est un grand homme du XXe siècle, tout simplement.
La décolonisation en Afrique, dans le Maghreb, y compris en Chine. Et donc, ça, il faut entendre ces propos-là.
À propos de Chine, un petit extrait de Georges Frêche.
Mais je ne regrette pas cette période maoïste. J'ai fait des choses magnifiques.
Ah, on a sauté.
Ah, on n'a pas entendu ce petit extrait.
Mais je ne regrette pas cette période maoïste. J'ai fait des choses magnifiques.
La période où il a été Mao, où il s'appelait Georges Ollière. C'était du grandiose, ça.
Bah, il était maoïste, il était marxiste-léniniste. D'ailleurs, dans les statuts du Parti communiste, moi, quand j'ai adhéré, il y avait le marxisme-léninisme référence absolue. On a supprimé ça, nous, les communistes. Oui, nous, on a
évolué. Il y a longtemps.
Et Georges Frêche aussi, la preuve. C'est que il défend. Il était avec Gérard Depardieu est venu
en Chine. Vous étiez ensemble, non?
Oui. Pour écouter sa conférence sur la longue marche de Mao Tse-Tung. Mais c'était génial. Pendant deux heures et demie devant des Chinois médusés, des jeunes étudiants chinois. Et pas que les Chinois d'ailleurs, parce que toute la délégation, et là il y avait des patrons, des universitaires de Montpellier, tout ça, et Gérard Depardieu qui avait entendu que Georges Frêche était là, qui a voulu venir, donc pendant deux heures, sans notes,
sans rien,
il nous a fait une conférence, et là il a dit, maintenant la Chine, c'est 50% maoïste, donc du communisme à la chinoise, et 50%
confucien.
Confucien.
Ouais.
Ça, c'est du Frêche.
Oui. Et le confucianisme, selon Frêche, c'est le 1. Voilà. C'est le chiffre 1, quoi. Béatrice, ta plus belle engueulade avec Georges Frêche.
Oh, j'ai pas eu des grosses engueulades. J'ai eu des...
Ah bah ça ne m'a pas dû porter à conséquence, puisque t'étais encore avec lui.
Voilà. Non, non, mais on n'était pas d'accord sur un point. Bon, moi, je suis militante laïque, donc je me suis engueulée 3 ou 4 fois avec lui au sujet de la construction du lycée Pierre Rouge. Mais ensuite, il a accepté mes arguments. Et puis là, il a, bah, voilà, la majorité a voté. Mais j'ai plutôt envie de dire... au sujet de ces différences-là, ben oui, c'était un homme de compromis, hein, malgré tout. Hein. Il fallait essayer de, on va dire, de donner à tous, quoi, hein, à tous, quelle que soit la communauté à laquelle les gens pouvaient appartenir. Et ça, c'est peut-être aussi pour ça que, quelque part, il y a tant de gens dans des tas de milieux différents qui sont aussi affectés que nous aujourd'hui, quoi. Ouais. Parce que à chacun, il donnait ou il a amené la politique régionale ou municipale à l'époque, etc., a donné à chacun la place et les par rapport aux besoins.
Oui, oui, ce que dit Jean-Claude. Béatrice Negri est très juste. On peut le cataloguer au-dessus des clivages. Alors, tu avais cette situation. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'étais sur FR3, celui qui me succédait sur le plateau pour discuter, pour dire ce qu'il pensait de Georges Frêche, c'était Jean-Pierre Grand.
Eh ben, il vous a précédé.
Il vous a précédé, là, il y a 2 heures, 3 quarts d'heure.
Il y a une demi-heure, il était là.
Et
il
je ne sais là. Pas ce qu'il vous a dit ici,
ah bah, mais, il a dit
mais
que...
c'était du bien.
Bah, il proposait notamment de faire baptiser la salle Arena...
Georges Frêche.
Georges Frêche. Et il s'est engagé en conseil municipal à Castelnau, la grande avenue là, de Castelnau, la nouvelle avenue, à ce qu'elle soit baptisée Georges Frêche.
Ouais, voilà. Donc c'est pour dire au-dessus des clivages, parce que et c'était pas que les clivages politiques.
Enfin, remarquez, ça dépend de quelle politique. Monsieur Grand n'est pas à mettre peut-être dans tous les mêmes paniers que certains.
Il est un peu déclivé.
Oui, hein, c'est pas tout à fait la même chose que nos gouvernants, je crois.
Oui, mais j'écoutais Roustan ce matin aussi à la radio, et c'était un peu ça. Et puis, quand tu vois, comment ça s'appelle, maintenant Martine, elle dit un bien fou de Tino Bri, de Georges Frêche.
Et Bayrou. C'est nouveau, c'est nouveau.
Bayrou. Donc, il y avait cette dimension un peu au-dessus des clivages. D'ailleurs, il a traduit simplement, il disait, avant les élections, on se bagarre, après, on travaille l'intérêt général. Mais il n'y avait pas que les partis politiques. C'était aussi au-dessus des clivages. Comment dirais-je ?
Communautaire, on peut dire.
Travailleur, entrepreneur.
Voilà, un picarme communautaire. Mmh.
Ah, écoutez bien, parce que là, on va ressortir la lutte des classes. Mmh. Mais il y avait dans sa tête, dans le fond, de Maoïs, il était devenu un social-démocrate sincère, si je puis dire. Mmh, ouais. Voyez ce que je veux dire, mais...
Dans la bouche d'un communiste, ça veut tout dire, c'est un social-démocrate sincère.
Voilà.
Ouais, bien, heureusement, tu as été viré du PC, quand même. Viré. Peut-être pas tout à fait le mot. Encore un petit extrait de Georges Frêche.
Mais les partis, moi, écoutez, les partis, je les aime. J'ai vécu 37 ans au Parti Socialiste, donc moi, je suis, d'une certaine façon, un homme de parti. Mais maintenant que j'en suis parti, je vais vous dire, un de ces jours, il y aura un congrès, Martine Aubry sautera, vous verrez.
Oh, ça, c'était Georges Frêche il y a quelques mois. Il y a quelques mois dans nos studios.
Non, il y a quelques mois, et dans vos studios, il a dit aussi, j'ai écouté, parce que j'écoute ta radio de temps en temps, hein, quand je réussis à prendre.
C'est gentil.
Quand je suis sur Montpellier, là, je réussis à prendre ça. Mais il a dit aussi, moi maintenant, c'est DSK, Dominique Strauss-Kahn. Si c'est pas DSK, s'il veut pas y aller,
Hollande.
C'est Hollande ou Ségolène. Hein? Et alors, ouais, hein, Martine, on va Martine. mais si c'est elle qui est désignée, je ferai campagne pour elle.
Ah oui, bien sûr, ça c'est oui, du Georges Frêche. Oui.
Dans la sélection du son, il te faut aussi entendre ça.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il n'était pas quand même pour jouer politique de la terre volée.
Non. Oui, non, tout à fait. Alors, le meilleur souvenir que vous avez avec lui. Béatrice, je crois que tu l'as connu beaucoup plus comme un public.
Oui, mais...
Mais Jean-Claude, tu l'as connu aussi même. Comme un privé. Enfin, c'est apparent quand vous partiez, bon, style en Chine, l'autre jour, une dizaine d'heures d'avion à l'aller, autant 10 ou 12 heures à l'aller, autant en retour, on n'a plus les mêmes relations, on déconne. Le meilleur souvenir que tu as pu avoir avec lui.
Non, le meilleur souvenir, c'est difficile de dire un souvenir, c'est une gamme de souvenirs, mais plus qu'on parle de la Chine. Bon, ben, il y a 10 jours, on tapait la belote.
T'es jamais
on tapait la velotte avec dont avec Georges Frey. Il aimait et il adorait jouer
à
la velotte.
Il jouait quoi, à la coinche ou
non non la velotte classique. Non, le truc le plus simple qui soit. Et alors il était pas là. Mais je vais vous dire un truc. Un jour,
Était monté en Lozère avec lui jouer à la velotte.
Non, mais je suis allé un peu partout.
Au moment de la campagne.
Un peu partout. À Lozère, j'ai joué à la velotte, effectivement. Ah, ah, ah. Avec Alain Bertrand. Et alors, attends, un jour, on va au Chili. Au Chili, tout à coup, devant ces soldats chiliens qui sont habillés à l'allemande.
Oui. Vert de gris, un peu, hein.
Le Georges Frêche, Pinochet n'était pas mort.
Ah, d'accord.
Se met à crier. Vive Allende, à mort Pinochet.
Alors, ça, c'est du genre de frère.
Quelqu'un qui dit ça. Et puis quand tu vois qu'il a été attaqué comme un type de droite.
Ouais, non, là, ça.
Oui, oui.
Ben enfin, tu vois, ça fait partie des souvenirs qui m'ont marqué.
Moi, je voudrais aussi dire les meilleurs moments que j'ai vécu avec lui, c'est quand on allait dans nos écoles de la deuxième chance, devant ces jeunes de toutes les couleurs et éloignés de la culture, de l'emploi, qui le regardaient, avec qui il dialoguait. Et alors, il s'asseyait là sur sa chaise un peu haute. Ils étaient tous autour de lui et on le sentait heureux. On le sentait heureux au milieu des jeunes. Alors, ce que j'apprécie vraiment, et je pense que c'est une rare qualité, c'est d'être aussi à l'aise avec des jeunes. Issus des quartiers qui ont des difficultés à s'exprimer, etc., que devant les jeunes universitaires. Et ça, je crois que c'est une grande qualité, quelque part, de pouvoir donner autant aux uns qu'aux autres, donner autant au top niveau de la recherche scientifique et donner pour les plus petits, ceux qui ont vraiment besoin de, parfois même de réapprendre à lire, à compter, à écrire, à dire bonjour avant de chercher un emploi. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui me touche chaque fois profondément. Après, j'ai un souvenir marrant quand même, c'est l'inauguration des travaux du Pont du Diable, où on l'a installé, c'était en juin
de l'année dernière. C'est à côté de Saint-Jean-de-France.
Ouais. On l'a installé dans une petite voiture qui ressemblait à une papa mobile. Vous savez, ces voitures de golf.
Oui.
Hein, parce que c'est une petite voiture qui servait justement à faire des travaux, à apporter du matériel et tout, le long de ce grand parking. Mais on n'arrivait pas à le faire descendre de cette petite voiture. Encore un tour, et les gens venaient tous vers lui.
Ils ont régalé, d'accord.
Ah oui, oui. Il était heureux ce jour-là, mais c'était impressionnant, quoi. De voir que c'est quelqu'un que le peuple aime, quoi. Les gens viennent, ils parlent, ils échangent. Et lui, il sortait la tête de cette petite voiture blanche rigolote, là. Et on voyait qu'il se marrait, quoi. Il était très heureux, quoi, ce jour-là. Alors, ça, c'est un bon souvenir.
Encore un petit extrait ou deux des déclarations du grand Georges.
Tout le monde m'attaque parce qu'il n'y a que moi qui existe un peu dans la région, il faut le dire.
Tout le monde m'attaque parce qu'il n'y a que moi qui existe dans cette région. Bon, j'ai peur qu'on le constate dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Parce qu'effectivement, dire qu'il n'y a que lui, c'est peut-être un peu exagéré.
C'est exagéré.
Du fraîche, bon. Mais il va y avoir quand même un sacré vide.
Il y a un grand vide.
Et à l'agglo, et à la région.
Bien sûr, non mais le vide est...
Mais hors la question de l'amitié, enfin, au-delà de ça. Hein.
Mais bien sûr, bien sûr. Et je vais vous dire, je souhaite vraiment que ce vide soit comblé à gauche dans une démarche de rassemblement. Moi, je vous le dis, hein, comme je le ressens. Maintenant, il faut s'appuyer sur l'acquis, s'appuyer sur cette personnalité, sur ce qu'il a imprimé.
Et continuer son œuvre.
Mais il faut pas repartir dans des, enfin, je le dis au Parti Socialiste, dans des guéguerres on a réussi.
Dérisoire, on pourrait
dire. En 2004, à remplacer Jacques Blanc et l'extrême droite dans cette région. Bon, et pour Frêche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'imprimer dans la région, et il a commencé à réussir, une démarche qui soit à la fois moderne et sociale, c'est-à-dire de gauche, comme il avait fait, comme il a fait
Montpellier.
Sur Montpellier. Et c'est à partir de cette logique-là que nous avons commencé à marquer des points. Donc moi, je pense que maintenant, vous avez raison. C'est très bien qu'on parle du passé, c'est très bien qu'on parle de qualités, de Georges Frêche, et c'est le moment, d'ailleurs, au moment où quelqu'un décède, c'est, on peut pas faire autrement, mais quand même, je suis
l'avenir.
Sûr que si de là-haut, il nous voit, je dis ça pour les croyants, eh bien, il attend qu'une chose, c'est qu'on poursuive dans le sens de ce qu'il avait imprimé.
Alors, un petit morceau de musique, une petite respiration. Bah, Françoise Hardy, comment te dire adieu ? Retour dans nos studios, Divergence 93.9, et bien pour un hommage au camarade Frêche.
Ah, camarade, oui, c'est vrai qu'il aimait bien ce nom-là.
Camarade, compagnon, je sais pas, oui. Lequel
mon
du deux
frère,
ouais, je pense que, bon, oui.
Camarade Guesso
bon, ça peut bien le faire.
Je doute qu'il vous appelle comme ça.
Et donc, avant qu'on termine sur l'avenir, parce que c'est pas le tout de parler du passé, mais il faut aussi parler de l'avenir, encore peut-être un ou deux petits extraits de Frêche.
Besançonneau, c'est un type sympa, mais c'est le petit facteur de Sarkozy.
Besançonneau, c'est le petit facteur de Sarkozy, disait-il.
Ouais. T'en as à peu près autant pour Besançonneau.
Non, mais ça c'est vraiment typique de Georges Frêche. Je vous ai dit, quand il flatte, il en fait trop, et quand il éreinte, il en fait trop aussi.
Oui, c'est ça.
Alors,
il y a un milieu.
Mais c'est comme ça qu'il faut aussi qu'il a su faire passer des messages.
Et fédérer. Encore un autre extrait.
Parce que les Verts, c'est un rassemblement improbable, les écologistes.
Les Verts, c'est un rassemblement improbable. Les écologistes, c'est improbable. Ce qu'il disait-il.
Oui, d'accord aussi avec ça.
Et oui, non, et en même temps, tout ce qu'il a fait pour l'environnement.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec les Verts, ça n'a rien à voir.
Ah oui, mais ça veut dire quand même que quelque part, ils savaient écouter. Parce que bon, Pietra Santa, moi je dis Pietra, mais c'est pas un manque de respect, vous avez compris.
Au contraire.
Pietra lui faisait des démonstrations et on voyait que des fois, il n'était pas bien convaincu. Sur le climat, sur les abeilles, rappelle-toi.
Ah, il a quand même mis des abeilles et des ruches.
Oui, voilà. Donc ça veut quelque
sur
part.
Sur les étangs.
Ça veut dire que.
Et sur le toit de la région.
Oui, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'il était capable d'entendre.
Encore un petit extrait.
La politique de Jacques Blanc, c'est le guichet ouvert à tout le monde, en parfaite honnêteté, sans aucune idée générale et sans aucun but précis.
Jacques Blanc, un bon résumé de 18 ans de gouvernance Blanc.
18 ans.
Oui, c'est un bon résumé, mais assez sympa.
Oui,
finalement, pour Jacques Blanc, en définitive, Jacques Blanc était un peu paralysé par la politique du Front National, c'est-à-dire je touche pas aux impôts, je touche pas à la fiscalité, donc je fais rien. Et comme Frêche est un, tout le monde le dit, bâtisseur visionnaire, tout ça, lui, il avait pas envie de saupoudrer, il avait envie de faire bouger.
À propos de saupoudrage, encore un extrait.
On peut saupoudrer, mais on peut saupoudrer scientifiquement. Moi, par exemple, je distribue aux départements, aux pays, aux agglos, à peu près chaque année 10%, et cette année, comme on est avant une élection, 14%.
Oh, ça aussi, ça c'est quand même du grand fraîche, non? Et puis qu'il le disait aussi, oui. quand on est élu, on fait péter les impôts, et puis 5 ans après, les gens ne se rappellent plus, ils revotent pour toi.
Non, mais et puis 6 ans après ou 7 ans après, ils vérifient que pendant 5 ans, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts.
Oui.
Parce que, alors, bon, voilà, ça c'est on est, je vous dis, on est toujours dans l'analyse d'un cas typique. Mais je reviens sur l'idée de rassemblement. Enfin.
Oui, parce qu'il faut parler d'avenir.
Parlons d'avenir.
Oui, mais justement, on parle d'avenir, et c'est en parlant d'avenir, comment comprendre que...
Qui va nous dire du passé, faisons table rase, si on le laisse faire.
tu veux que je te la chante?
même pas cap.
Allez, si. Je suis cap.
Vous, non?
Alors, non, ce que disait Béatrice, nous avons, enfin, en 2000, nous sommes les radicaux de gauche, le mouvement des citoyens, les verts écologistes,
les
communistes, les socialistes, tous ceux qui avaient été élus, la majorité, en 2004, malgré tout, malgré je dis pas pour tous les partis,
hein, surtout le Parti
Socialiste.
Parce que
finalement, il a été de ce point de vue plus raisonnable que
le Parti Socialiste.
Mais malgré toutes ces injonctions venues d'en haut,
Eh bien,
on est tous restés. Oui. Vous croyez que ça, c'est le hasard?
Non.
Vous croyez que ça arrive comme ça? C'est parce que, justement, il y avait dans sa démarche, la démarche de rassemblement. Et je dis, pour l'avenir, il faut soigner cette démarche-là comme la prunelle de nos yeux. Sur un contenu. Et quel contenu? Nous, on est reparti avec Georges Frêche.
Vous avez un programme. Vous avez été élu sur un programme.
D'un programme et d'un projet.
Et là, qui pour le mener? Parce qu'il va bien falloir un président, quand même.
Eh bien, le président...
Celui que Frêche avait presque autoproclamé, Christian
non,
Bourquin.
Non, celui. Moi, je veux pas discuter là-dessus. Celui qui sera choisi à la fois par les socialistes et par la majorité, puisque nous aurons notre mot à dire également. Eh bien, ce président-là, là, il faut qu'il ait comme conception de la présidence.
L'application du programme.
Le rassemblement et l'application du programme. Bon, il arrivera sûrement pas au niveau de la personnalité et du charisme à ce qu'était Georges Frêche, mais sur le contenu, il faut que la dimension politique de gauche, politique d'emploi, politique de modernité, politique de formation, politique sociale, eh bien, soit vraiment...
On te voit bien coach du futur président.
Ah oui.
Ah mais je pense que on peut être.
Parce que le seul qui a encore une grande gueule au conseil régional, c'est toi maintenant.
Ah voilà.
Non moi je parle. Moi je suis gentil. Mais alors. Mais Georges était gentil aussi. Je l'aime. Vous rappelez des fois il se mettait à les aimer tous.
Oui.
Y compris ses amis socialistes qui le éreintaient.
Béatrice, l'avenir tu le vois comment? Bien,
sincèrement, là, depuis hier soir, je suis, j'arrive pas à y croire, quoi. Hein, donc, et l'avenir, mais je pense que quand même, on est des élus, on est des gens responsables. Les socialistes, ils vont bien aussi avoir une attitude responsable, du moins je le souhaite. Surtout une fois qu'ils auront désigné et avec nous, quand même quelque part, hein, le nouveau président. Eh bien là, je crois qu'il faudra vraiment que tout le monde se redresse les manches parce que la tâche, elle est rude. Ce qui avait été entrepris doit être continué. Or, continué avec ce lourd handicap d'avoir perdu notre tête de pont, notre capitaine. Hein, moi, je le dis comme ça. Hein. Ça voudra dire le double de travail pour arriver à convaincre parce que on avait un homme qui allait chercher, les emplois à l'étranger, qui allait vendre notre vin, qui allait négocier.
20 millions voilà. De bouteilles en Chine. En Chine, l'an dernier, oui. Et on peut dire que si on est arrivé à ce chiffre, c'est parce que Georges Frêche a imprimé une politique d'exportation de nos produits.
De commercialisation.
Et d'image.
Avec
d'image
7 millions, hein, je dis le chiffre. En réalité, 19 millions 900.
Oui, enfin, Sud de France, c'était quand même une,
Sud
encore
de France
une idée.
Export.
Voilà,
oui,
non, mais ça,
la Chine, et puis
Sud de France,
Berlin,
ça va rester.
Vietnam, des choses comme ça, oui, oui, oui.
C'est son bébé, mais énorme. Il va rester. Il va grandir.
Mais voilà. Pourquoi les viticulteurs? Interrogez-les, les viticulteurs. Mmh. Pourquoi ils vous diront qu'ils sont tristes du départ.
Ah, moi, je les ai eu au téléphone, moi, déjà, depuis hier.
Et c'est pas vrai que pour... Oui. Vous savez, là, j'étais en Chine avec le professeur le président Bringer, mais j'étais aussi avec toutes les entreprises innovantes, les plus innovantes. Ouais, on est en train de créer une sorte d'incubateur, là, des pépinières d'entreprises innovantes entre Shanghai
et Montpellier.
C'est Montpellier, mais franchement, moi, je dis ça honnêtement. Hein. C'est que du plus pour l'emploi,
pour
c'est
l'emploi.
Que du plus pour la région, c'est que du plus pour...
Pour nos jeunes, parce que nos jeunes, il va falloir qu'ils trouvent du travail. Hein. Parce que nous, on va travailler beaucoup plus longtemps, donc nos jeunes, il va falloir qu'ils trouvent du travail. Hein.
Et oui.
Alors, un dernier mot, on arrive au terme de cette heure et demie d'émission spéciale de Provoscopie. Béatrice, un dernier mot sur ce que tu as envie de dire par rapport à cette disparition de Georges Frêche.
Moi, je suis fière d'avoir travaillé avec lui. Et je suis heureuse d'avoir travaillé pour la population, pour la jeunesse du Languedoc-Roussillon. Je vais continuer à travailler, mais je suis vraiment heureuse d'avoir pu côtoyer un homme comme ça, un homme qui est différent, quoi. Voilà.
Jean-Claude.
Oui, bon, on parle du président et ceux qui restent sont malheureux et je pense à sa famille. Je pense à Claudine, à Julie, à Marion et à deux autres filles que je connais pas. Et je les ai rencontrées encore, les deux filles, Marion et Julie, là, tout récemment, mais elles étaient admiratives pour leur père et lui. Pour leur fille, c'était... Et alors, moi, si vous voulez, le dernier mot, c'est vraiment que ma pensée va au sien, voilà.
Et on peut dire, pour conclure, salut l'artiste.
Oui, allez, salut.
C'est dans 10 ans, je m'en irai, chante dans le jouet de Renac, chantez à vous. C'est dans le vent, je m'en irai, la jupe de Michel, à passer dans le pré, la jupe de Michel, sans petit boulin, à passer dans le pré, à manger tout le foin.
La jupe de Michel, sans petit boulin, à passer dans le pré, manger tout le foin.
Hiver viendra, l'école, hiver viendra, la jupe de Michel, elle s'en repentira. C'est dans le pré à manger du foin.